Il était une fois une jeune fille douce et belle qu'on avait surnommée Cendrillon parce qu'elle s'asseyait toujours au coin de la cheminée près des cendres du foyer. La mort de sa mère fut pour Cendrillon un véritable drame. Son père se remaria en pensant lui donner ainsi l'amour d'une autre mère, mais lorsqu'il mourut à son tour, sa seconde femme révéla sa vraie nature, autoritaire, impitoyable, cruelle, une vraie marâtre pour Cendrillon. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, la marâtre avait deux filles, Javotte et Anastasie, jalouses, égoïstes, paresseuses. Les deux sœurs détestaient Cendrillon et ne cessaient de la tourmenter. Dans la grande demeure qui appartenait jadis à son père, Cendrillon est désormais devenue la servante. Pourtant, malgré son triste sort, elle reste charmante et de bonne humeur. Tous les soirs, dans sa chambre, sous les toits, tout en haut de la tour du château, elle retrouve avec bonheur ses amis les souris, dont Jack, son souriceau préféré. Ce matin-là, comme tous les jours, elle se lève à l'aube, descend à la cuisine et donne son bol de lait au chat de la maison, le redoutable Lucifer. Ensuite, il lui faut nourrir les animaux de la basse-cour, Major, le vieux cheval, et Pato, le bon chien. À peine ce petit monde est-il servi que les sonnettes retentissent. Ce sont ces demoiselles et leur mère. Elles ont faim et crient comme de vraies mégères. Cendrillon met le thé et les tartines beurrées sur des plateaux d'argent et monte vite jusqu'au premier étage leur porter le petit déjeuner. Ensuite, pendant que ces dames se prélassent encore au lit, Cendrillon va laver, repasser le linge, amidonner les cols, brosser les souliers, astiquer les cuivres, nettoyer les rideaux. À genoux dans l'entrée, Cendrillon frotte le sol avec de l'eau et du savon. Le chat Lucifer l'observe d'un œil mauvais. Tout à l'heure, il a attrapé Gus, la petite souris dodue. Il la tenait entre ses griffes, s'apprêtait à la croquer, et Cendrillon l'en a empêché. Il est très fâché, Lucifer. Il est très méchant aussi. Alors pour se venger, à peine le sol est-il lavé, qu'il s'amuse à le salir de nouveau. Et Cendrillon, le cœur gros, doit tout recommencer. Quelqu'un sonne à la porte du château. Cendrillon va ouvrir. Un messager lui remet un courrier de la part du roi. Elle la porte au salon où ces dames font de la musique. Le roi désire marier son fils. Ce soir, il organise un grand bal en l'honneur de son Altesse le Prince et toutes les jeunes filles à marier devront y assister. Les deux filles et leur mère se réjouissent d'être invitées au palais. Javotte et Anastasie, persuadées de leur charme, s'imaginent déjà en train de séduire le prince. Cendrillon demande timidement l'autorisation de les accompagner. Mais les deux sœurs ricanent devant sa pauvre robe déchirée et lui signalent que les bals princiers ne sont pas faits pour les souillons. Cendrillon leur tient tête. En tant que jeune fille de la maison, elle est aussi invitée à se rendre au bal. C'est un ordre du roi. Il est bien écrit sur la lettre « Toutes les jeunes filles à marier ». Ne trouvant rien à redire, la marâtre est forcée d'accepter, mais rusée, elle pose ses conditions. Pour aller au bal, Cendrillon doit avoir fini tout son travail et trouver une robe convenable à se mettre. Cendrillon, ravie, remercie et monte dans sa chambre. Elle ouvre une grosse malle et en tire une robe ayant autrefois appartenu à sa mère, une robe tout à fait démodée. « Je vais l'arranger un peu, se dit-elle, avec des rubans, de la dentelle. Mais voilà les mégères qui l'appellent. Il lui faut retourner travailler. » Cendrillon doit préparer les tenues de ses demoiselles, les coiffer, les friser, les poudrer, lasser leurs corsets. Et même si elle se dépêche, les trois méchantes femmes lui donnent toujours plus de travail. L'heure du départ approche et Cendrillon n'a pas eu le temps de préparer sa toilette. Triste et désemparée, elle retourne à son grenier et de sa lucarne contemple le merveilleux palais où, ce soir, toutes les jeunes filles du royaume iront danser. C'est alors que des bruissements d'ailes et des petits cris de souris attirent son attention. Intriguée, elle se retourne. Elle n'en croit pas ses yeux. Jack, Gus et tous ses amis sont réunis. Fiers de leur ouvrage, ils montrent à Cendrillon une robe merveilleuse. Tout l'après-midi, ils ont taillé l'étoffe, monté la dentelle, coupé les rubans, métamorphosé. La vieille robe est plus ravissante encore que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Cendrillon rit de bonheur et serre la robe contre son cœur. Quelques minutes plus tard, habillée, coiffée, Cendrillon court rejoindre ses dames dans le hall du château. Une calèche, envoyée par le roi, attend devant la porte. Lorsque Cendrillon apparaît, Javotte et Anastasie sont folles de jalousie. Elles se jettent sur elle en furie et réduisent la jolie robe en lambeaux. Humiliée, en larmes, Cendrillon se précipite dans le parc du château. Tous ses amis l'entourent, désemparés par tant d'injustice et de chagrin. Soudain, une petite dame apparaît dans une nuée d'étoiles. C'est une fée. Le jour de sa naissance, la maman de Cendrillon lui avait choisi une bonne fée pour marraine. La voilà enfin qui vient à son secours. La bonne marraine agite sa baguette magique remplie de poussière d'étoiles et offre à Cendrillon un spectacle extraordinaire. La grosse citrouille du potager se change en un luxueux carrosse. Les souriceaux deviennent chevaux, Major cocher et Pato valet de pied. Quel bel équipage! Encore un peu de poussière d'étoiles et Cendrillon, vêtu d'une merveilleuse robe, chaussée de deux jolies pantoufles de verre, est prête pour aller au bal. Toutefois, la bonne fée a une dernière recommandation. Cendrillon devra quitter le bal avant minuit. Au 12e coup de l'horloge, le charme sera rompu et le carrosse redeviendra citrouille. Pendant ce temps, dans le majestueux palais inondé de lumière, les invités s'impatientent et le roi se désespère. Le bal n'est pas encore commencé, car aucune des jeunes filles présentées au prince ne semble lui plaire. C'est au tour de Javotte et d'Anastasie de venir saluer sa majesté, lorsqu'une ravissante inconnue fait timidement son entrée dans la grande salle du palais. Un murmure parcourt l'assemblée émerveillée par tant de grâce et de beauté. Le prince lui-même n'en croit pas ses yeux. Il s'avance le cœur battant et invite la jeune fille à danser. Les violons entament une valse et Cendrillon ouvre le bal. Les heures s'écoulent comme dans un rêve. Le prince et Cendrillon oublient le reste du monde. Mais le temps, lui, ne les oublie pas. Il passe vite, bien trop vite, car soudain, l'horloge sonne. Cendrillon se souvient alors de la recommandation de sa marraine. Elle s'excuse, dévale à toute allure les marches du palais et perd une pantoufle. Elle continue sa course, prend place dans son carrosse et disparaît dans la nuit. Il était temps! l'horloge a sonné le 12e coup de minuit et comme la fée l'avait prédit, tout redevient comme avant. Adieu carrosse étincelant et robe d'organdi blanc. Mais les fées aiment faire de jolies surprises et l'autre pantoufle de verre scintille toujours à son pied. Le lendemain, dans tout le royaume, on ne parle que de la belle inconnue. On dit que le prince est fou amoureux d'elle. Le roi a ordonné au grand-duc de faire essayer la pantoufle de verre à toutes les jeunes filles du royaume. Celle qui pourra la chausser deviendra la fiancée du prince. La marâtre est sûre que Javotte et Anastasie ont enfin leur chance d'épouser un prince. Alors elle ordonne à Cendrillon de les préparer au plus vite. Mais Cendrillon n'entend plus les ordres ni les cris des mégères. Le prince est à sa recherche, n'est-ce pas merveilleux? Devant la joie de Cendrillon, la marâtre reconnaît la belle inconnue du bal. Elle la suit sans se faire voir et l'enferme dans sa chambre à double tour. Cachée sous la porte, les petites souris voient l'horrible femme glisser la clé dans sa poche. Le grand-duc arrive pour faire essayer la pantoufle. Jack et Gus sont bien décidés à libérer Cendrillon coûte que coûte. Au prix de nombreux efforts et de dangereuses acrobaties, ils grimpent dans la poche de la belle-mère et récupèrent la clé. Pendant ce temps, dans le salon du château, Javotte est la première à essayer le soulier. Elle insiste de toutes ses forces, mais son talon est bien trop gros et refuse d'entrer dans la pantoufle de verre. C'est maintenant au tour d'Anastasie d'essayer. Elle manque briser la pantoufle à force d'insister. Ses orteils sont beaucoup trop longs. Le grand-duc s'impatiente et s'apprête à partir. C'est alors que Cendrillon surgit en haut de l'escalier. Jack et Gus ont réussi à la libérer à temps. Elle va enfin pouvoir prouver qu'elle est bien la belle inconnue. La marâtre, afin de l'en empêcher, s'arrange pour briser le soulier. Alors Cendrillon tire de sa poche l'autre pantoufle de verre et l'enfile sans peine. Le grand-duc, enchanté, emmène la jeune fille retrouver le prince et dès le lendemain, le mariage est célébré dans le bonheur et la joie. Le soir venu, Cendrillon part en voyage de noces avec son prince charmant dans un merveilleux carrosse blanc. Les 12 coups de minuit peuvent bien sonner. Ce carrosse-là ne risque pas de se transformer en citrouille.